Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série « Connaissons-nous vraiment les Gaulois ?» Question que nous nous posons avec l'historien et archéologue Dominique Garcia. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des mœurs et des activités des Gaulois qui, contrairement à ce qu'on a pu dire, ne passaient pas leur temps à faire la guerre ou à chasser des sangliers. Aujourd'hui, les croyances et la culture gauloise.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Archidruide Gutuart, les armes font la loi dans toute la Gaule. La roue du destin menace de nous écraser sous elle. Nous sommes à l'agonie. Que devons-nous faire ?
Encore une fois, les Gaulois n'ayant pas écrit eux-mêmes de textes sur leur religion et leurs croyances, c'est grâce aux auteurs grecs et romains qu'on en a de rares informations. Si on les écoute, première chose, il semble que les dieux gaulois, contrairement à ceux de Rome, n'avaient pas forme humaine. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Pausanias, dit le Périégète, auteur grec et grand voyageur, rapporte une légende selon laquelle le chef gaulois Brennus, après avoir détruit le sanctuaire de Delphes, aurait éclaté de rire en découvrant que les Grecs donnaient à leurs dieux des formes humaines. Jules César, lui, dans la guerre des Gaules, dresse une liste de dieux gaulois qui, curieusement, sont ceux des Romains. « Le dieu que les Gaulois honorent le plus, dit-il, est Mercure. Après lui viennent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. » Comment comprendre ce texte ? Les Gaulois, suite à la conquête romaine, se seraient-ils mis à vénérer les dieux de l'envahisseur ? Ou bien Jules César est incapable d'apprécier une autre culture que la sienne ? Plus intéressant, César parle aussi des druides. Les druides, ministres des choses divines, président aux sacrifices publics et particuliers et conservent le dépôt des doctrines religieuses, écrit César. À une époque fixe de l'année, les druides s'assemblent dans un lieu consacré, au centre du pays, dans la forêt des Carnutes. Eh bien, une assemblée de druides venus de toute la Gaule, réunis au milieu d'une forêt, voilà bien de quoi enflammer les imaginations. Même si, sans doute, ces druides ne portent pas de barbe blanche et ne coupent pas de gui avec une serpe en or. Quel rapport les Gaulois entretiennent-ils avec la mort et les morts ? D'après Diodore de Sicile, prévaut chez les Gaulois l'idée que les âmes des hommes sont immortelles et qu'après un certain nombre d'années, elles reviennent animer d'autres corps. C'est pourquoi, ajoute Diodore de Sicile, lorsqu'ils brûlent leurs morts, les Gaulois adressent à leurs amis et à leurs parents défunts des lettres qu'ils jettent dans le bûcher comme s'ils devaient les recevoir et les lire. Jules César raconte aussi, je cite, que les hommes ont droit de vie et de mort sur leurs femmes et leurs enfants. Lorsqu'un père de famille d'une haute lignée vient à mourir, ces femmes sont interrogées. Si le crime est prouvé, elles sont livrées au feu et aux plus cruels tourments. Les funérailles sont magnifiques et somptueuses. Tout ce que le défunt a chéri pendant sa vie, on le brûle après sa mort, même les animaux. Jules César, comme Diodore de Sicile, affirme que les druides gaulois pratiquent des sacrifices humains en guise d'offrande aux dieux. Dominique Garcia, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout cela ? Est-ce que l'archéologie nous apprend des choses nouvelles et différentes sur les croyances gauloises ?
Déjà, les textes nous montrent l'habileté de César, qui pouvait éventuellement se mettre à dos l'ensemble des Gaulois, mais peut-être pas les dieux. Donc, de fait, il choisit de comparer les dieux gaulois aux dieux romains, en disant, c'est eux qui les nomment mal, mais on a à peu près les mêmes. Et donc ça, il me semble que c'est soit de la facilité, soit de l'habileté. Mmh. Et donc, effectivement, il parle d'Apollon, de Mars, de Jupiter, et puis on a des noms gaulois qui sont Lugues, qui pourraient être Mercure, qui sont Teutates, qui pourraient être Mars.
Ah, Teutates, pas Teutatis.
Voilà. Oui. Et qui sont le dieu de la tribu. Et donc, voilà, il rapproche ces dieux gaulois des dieux romains. Et ce qui était à la fois facile pour les courriers qu'il envoyait vers le Sénat, mais aussi facile pour les populations avec qui il était en contact, en disant « mais moi j'ai rien contre vos dieux, on a les mêmes ». Et d'ailleurs, ensuite à la romanisation, les sanctuaires gaulois seront embellis par l'architecture romaine. Donc j'ai l'impression qu'il se débarrasse par facilité ou par habileté de ce problème-là. Et ensuite, il y a l'organisation du culte que vous avez évoqué, avec le cas des druides.
Qui sont ces druides alors ?
Alors les druides sont aujourd'hui, d'après le croisement des données philologiques et anthropologiques et archéologiques, ce sont des philosophes, ce sont des sachants, c'est des gens qui transmettent, des théologiens, qui ont ce savoir sur ces sociétés celtiques.
Est-ce qu'on peut les comparer à des prêtres ?
On peut les comparer à des prêtres et surtout à des philosophes, à des gens qui détiennent ce savoir, qui le transmettent, et on dit même donc qu'ils refusent de le transmettre par écrit, d'où le fait que les non-gaulois n'avaient pas d'alphabet, et qu'ils se transmettaient ce savoir de façon orale. Donc on a ces prêtres, philosophes, donc les druides. Ensuite, on a les bardes, ce sont eux qui racontent les légendes, qui racontent les histoires.
Ce sont des conteurs.
Ce sont des conteurs. Et ensuite, on a un troisième groupe qu'on appelle les vates, qui eux sont probablement les sacrifiants. C'est ceux qu'on retrouvait dans les sanctuaires et qui pratiquaient les sacrifices avec des animaux, voire avec des êtres humains.
C'est possible ça que les Gaulois aient pratiqué des sacrifices humains ?
Oui, mais là aussi, ça étonne ou ça effraie les populations méditerranéennes. Mais si vous regardez à Rome la colonne Trajane, quand les Romains interviennent chez les Thraces et autres, ils coupent également les têtes. Hein, je veux dire, donc on était dans cette période-là, ramener un trophée et couper une tête, c'était montrer qu'on avait vaincu, et on affichait ça. Et la petite phrase en nous disant que les Gaulois trempaient dans de l'huile de cèdre ou de cadre les crânes des vaincus et les mettaient à l'entrée des villages, c'était une manière de dire, ben voilà, on est chez nous. Et voilà, on l'a emporté. Et donc, c'est des pratiques qui sont présentées comme sanguinaires de la part des sociétés civilisées, mais qui avaient peu ou prou les mêmes pratiques.
Et les druides, d'où vient cette imagerie du druide avec une grande barbe blanche qui va dans la forêt chercher du gui avec une serpe ? C'est complètement une fantaisie ?
C'est une fantaisie liée au folklore du 19e siècle où on a recomposé ce monde celtique en lui donnant des attributs un peu archaïques. En fin de compte, les Gaulois sont les premiers peuples connus et cités dans notre histoire, et donc on a eu tendance à rassembler tout ce qu'il y avait en eux, d'où l'image dans Astérix du druide sur le dolmen. Les dolmens et les menhirs sont de 2000 ans antérieurs à nos Gaulois. La plupart sont datés vers 3000 avant Jésus-Christ. Nos premiers Gaulois datent du début du premier millénaire, mais en revanche, ils étaient plus anciens, donc on les a mis ensemble pour montrer un aspect primitif de ces populations-là.
En ce qui concerne la culture des Gaulois, on l'a dit, il n'y a pas d'écriture proprement gauloise. Comment expliquer ça ? Comment ils faisaient pour noter, pour compiler, pour communiquer ?
Alors là, c'est un élément qui peut nous surprendre aujourd'hui, mais à ces périodes, l'écriture n'était pas si répandue que ça. Elle servait pour les usages commerciaux, pour les usages administratifs. Même dans le monde romain, l'écriture n'était pas pratiquée tous les jours. Nos Gaulois pratiquaient, effectivement, avaient une langue. Ils ont parfois utiliser des alphabets étrusques, grecs ou latins pour écrire leur propre langue. Et ça donne des documents assez étranges qui parlent le gaulois, mais qui sont écrits en latin, et donc un romain n'aurait pas pu les lire, et en revanche, uniquement en les prononçant, un gaulois arrivait lui à comprendre.
Et l'art gaulois, Dominique Garcia, j'ai vu que les surréalistes au XXe siècle ont été les premiers à s'intéresser à l'art gaulois.
Alors c'est un art fantastique.
André Breton, c'est ça ?
Exactement, André Breton collectionnait les monnaies gauloises, qui sont des documents assez tardifs, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui sont des documents superbes, illustrés, qui prônent une sorte de forme d'abstraction, où effectivement un visage, un cheval est abstrait, est réduit à l'abstraction la plus simple, et donne effectivement des figurations de style remarquables. C'est l'aurore du vide, l'aurore vacui, avec des espaces remplis et des petits symboles.
Et qu'est-ce qu'on sait des connaissances techniques des Gaulois ?
Alors, les connaissances techniques, on les sait dans l'exploitation des mines, qui étaient relativement performantes. Justement, elles ont intéressé les populations méditerranéennes. On le sait dans l'agriculture. Ils avaient inventé l'équivalent d'une moissonneuse-batteuse, le valum, qui est décrit dans certains textes. Donc, il y avait des moulins, il y avait des éléments liés aux pratiques agraires et d'élevage qui étaient relativement performants. Ensuite, on avait effectivement l'architecture, et notamment César, quand il est confronté à certains remparts, décrit ce qu'on appelle un murus gallicus, c'est-à-dire un rempart qui résiste aux coups de bélier, vu qu'il est construit à la fois de pierre, de bois, de terre et de fer. C'est notamment le cas du Murus Gallicus de Bourges ou celui de Bibracte dans le Morvan.
Merci Dominique Garcia. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la conquête romaine de la Gaule, de la guerre et bien sûr du super-héros Vercingétorix.